J'écris couché sur ce que le docteur dit être mon lit de mort, et ma plus grande déception serait qu'il se fût trompé. Mon enterrement devrait avoir lieu la semaine prochaine. Il y a dans Londres un homme qui se met à hurler chaque fois que les cloches sonnent dans les églises. Cet homme vit seul, avec son chat zébré, à la pension Gray's Inn. Les gens l'appellent le fou pacifique. Sa chambre est pleine de livres enfantins, inoffensifs, qu'il feuillette des heures durant. Tout ce qu'il souhaite dans la vie, c'est de ne pas avoir à raisonner. Pour quelque motif singulier, la pensée lui est une chose insupportable, et il fuit comme la peste toute forme d'imagination. Maigre, gris et ridé, certains affirment cependant qu'il n'est pas aussi vieux qu'il en a l'air. En proie à une perpétuelle terreur, il tressaille au moindre bruit. Ses yeux s'agrandissent alors démesurément et son front se couvre de sueur. Il n'a plus ni ami ni compagnon, ce qui lui évite de parler de lui. Des gens qui ont connu naguère cet homme érudit, cette esthète, disent que c'est une vraie pitié de le voir maintenant. Il les a peu à peu perdus de vue au cours des années, et aujourd'hui personne ne pourrait dire s'il a quitté le pays ou s'il se cache de ses relations dans une retraite isolée. Installé depuis 10 ans dans la pension Gray's Inn, il n'a jamais évoqué son passé, jusqu'au soir où le jeune Williams acheta le Necronomicon. Williams était un rêvasseur de 23 ans quand il s'installa dans l'ancienne maison. Il perçut immédiatement le curieux souffle de vent cosmique qui émanait de son voisin, le vieillard grisonnant. Et il réussit à imposer sa présence là où de vieux amis s'étaient découragés devant les crises d'effroi qui s'emparaient parfois de cet observateur attentif, décharné et hagard. De fait, l'homme passait son temps à regarder et à écouter, plus avec son esprit qu'avec ses yeux ou ses oreilles, pour distraire son attention, allant même jusqu'à lire des romans gais et insipides. Mais lorsque les cloches des églises se mettaient à sonner, il laissait tout en plan, se bouchait les oreilles, et ses hurlements, auxquels s'associaient ceux du chat gris, ne cessaient qu'avec le dernier son de cloche. Williams avait beau essayer de découvrir le secret de son compagnon, il n'y arrivait pas. L'étrange vieillard avait une attitude assez peu en rapport avec son aspect physique. Il affichait un éternel sourire, et il s'exprimait en babillant fiévreusement, s'excitant d'une façon puérile pour des vétilles. Sa voix, parfois, atteignait un ton de fausset qui la rendait incohérente. Williams, cependant, ne fut pas étonné de l'entendre parler de Harrow et d'Oxford, car ses remarques, même les plus anodines, portaient l'empreinte d'une vaste érudition. L'inconnu se révéla être Lord Northam, dont le château, situé dans le Yorkshire, était l'objet d'étranges récits. Lorsque Williams essaya de parler des origines romaines de cette demeure, Lord Northam refusa d'admettre qu'il y eût quoi que ce soit d'anormal à ce sujet, balayant d'un rire étouffé les allusions aux cryptes souterraines creusées dans le solide rocher au-dessus de la mer du Nord. Les choses en restèrent là, jusqu'au soir où Williams rapporta le Necronomicon, écrit par l'arabe fou Abdul al-Azred. Il connaissait l'existence de ce livre maudit depuis l'âge de 16 ans, depuis qu'il s'intéressait au fantastique et qu'un vieux libraire de Chandos Street lui avait parlé de ce curieux document qui faisait pâlir d'effroi tous ceux qu'il avait eus entre les mains. Le bibliophile lui apprit que 5 copies seulement avaient survécu aux autodafés et aux interdits. Toutes étaient précieusement enfermées chez ceux qui les détenaient. Par chance, Williams en avait découvert une copie dans la boutique d'un juif situé dans le sordide quartier de Clare Market, là où il achetait souvent des choses étranges, et il avait pu l'acquérir pour un prix très modique. Lorsqu'il fut en possession de l'ouvrage, le vieux lévite le regarda partir avec un singulier sourire caché dans sa barbe bouclée et en gloussant d'une manière inquiétante. La volumineuse couverture de peau, avec son fermoir en cuir, était si belle, le prix si ridiculement bas, que Williams, en relisant le titre du livre introuvable, s'enfonça dans le ravissement. Quelques-uns des diagrammes figurant sur le texte latin déclenchèrent chez lui un flot de souvenirs si inquiétants et si mystérieux qu'il se mit aussitôt à le déchiffrer dans sa chambre. Mais lorsqu'il s'aperçut que les mélanges de caractères gothiques et de bas latins dépassaient ses compétences de linguiste, force lui fut d'appeler à l'aide son étrange ami. Lord Northam, qui débitait des inanités à son chat, sursauta violemment lorsque le jeune homme entra. À la vue du titre du volume qu'il lui apportait, le vieil homme s'évanouit. Après avoir repris ses sens, il raconta son histoire, l'histoire fantastique d'une folie, dans un murmure rapide et plaintif qu'il voulait convaincant pour obliger son compagnon à brûler cette édition maudite et à en éparpiller les cendres. « Le livre apportait, dit Lord Northam, le malheur dès les premières pages, et lui-même n'en fut pas arrivé à de telles extrémités s'il n'eût poussé ses recherches aussi loin. » Lord Northam était le 19e baron d'une lignée dont les origines se perdaient très loin dans le passé. On disait dans sa famille qu'elle remontait à l'époque d'avant les Saxons, jusqu'à un certain Luneus Gabinius Capito, tribun militaire dans la 3e légion d'Auguste, stationné à Lindum, en Grande-Bretagne romaine, qui avait été sommairement cassé de son commandement pour avoir participé à certains rites n'appartenant à aucune religion connue. Gabinius avait découvert une caverne creusée au flanc de la falaise, dans laquelle se réunissaient d'étranges personnages venus y faire le signe ancien dans l'obscurité. Ces créatures, dont les Bretons eux-mêmes avaient peur, étaient les derniers survivants d'une contrée de l'Ouest disparue, dont il ne subsistait que des îles couvertes de cercles de pierre et de menhirs. Stonehenge en était la plus grande. La légende disait que Gabinius avait fait construire au-dessus de cette grotte interdite une citadelle inexpugnable que les Pictes et les Saxons, les Danois et les Normands n'avaient jamais réussi à envahir. On n'était pas certain que l'audacieux et amical lieutenant du prince noir, qu'Édouard III avait fait baron de Northam, fût issu de cette lignée, mais on parlait souvent et cela faisait partie du domaine du possible. En vérité, la construction du donjon de pierre de la citadelle ressemblait de façon étonnante à l'architecture du mur d'Adrien. Enfant, Lord Northam était assailli de rêves étranges quand il dormait dans la partie la plus ancienne du château. Il avait pris l'habitude, au réveil, de rechercher dans sa mémoire les scènes étranges, les situations confuses et les impressions vagues qu'il avait ressenties ou dans lesquelles il s'était trouvé pendant son sommeil et qui étaient fort différentes de son expérience vécue. Il devint rêveur par réaction contre sa vie monotone, dans laquelle il ne puisait aucune satisfaction. Ses exaltations le conduisirent vers des royaumes imaginaires et chimériques, jadis familiers, aujourd'hui inconnus de la Terre. Il était convaincu que notre monde terrestre n'était qu'un simple atome perdu au milieu d'un univers immense et inquiétant. Persuadé également que ces terres de l'inconnu faisaient pression sur la sphère du connu, prêtes à la pénétrer de toutes parts, Northam avait acquis dans sa jeunesse et dans le premier temps de sa maturité toutes les connaissances possibles sur la religion et les mystères de l'occultisme. Mais avec l'âge, les limites et la banalité de son existence le rendaient de plus en plus fou. Il se prit alors de passion pour le satanisme, passant le plus clair de son temps à dévorer avidement toutes les doctrines et les théories qui paraissaient lui promettre d'autres ouvertures que les lois invariables et étroites de la nature. Des livres comme le récit chimérique d'Ignatius Donnelly sur l'Atlantide, ou comme ceux qu'avaient écrits une douzaine de précurseurs de Charles Fort, l'enthousiasmaient par leurs divagations. Il n'hésitait pas à parcourir plusieurs lieux pour se rendre compte sur place d'un détail étrange sur l'histoire d'un village. Une fois, il partit dans le désert d'Arabie pour y rechercher une cité sans nom dont il avait vaguement entendu parler et que personne n'avait jamais vue. Il croyait dur comme fer qu'il existait quelque part une porte permettant à celui qui la trouverait de pénétrer dans les profondeurs des mystères qu'il imaginait subjectivement. Peut-être ces échos lointains se trouvaient-ils dans un monde visible, peut-être n'était-il qu'une extrapolation de son esprit divagant. Mais peut-être aussi détenait-il la clé mystérieuse dans une partie inexplorée de son cerveau, cette clé qui lui ouvrirait enfin les portes des civilisations oubliées et futures, et l'accès à des dimensions perdues qui le relieraient aux étoiles, à l'infini, à l'éternité.